La balade du week-end, Michel Pagès.
Pour la balade de ce week-end, nous sommes au Pourmusée de Douarnenez en compagnie de Kelly Kian-Koto. Bonjour.
Bonjour.
Pour visiter une exposition qui s'intitule
L'empreinte de Rome.
L'empreinte de Rome, ici en Bretagne. On rentre dans l'exposition, on constate une chose. Déjà, il y a une colonne juste à l'entrée de l'exposition. La première chose que l'on voit quand on y rentre, la colonne, elle vient de pas très loin.
Alors oui, elle vient des Plomards, qui est un des sites romains de la baie de Douarnenez. Et cette colonne, en fait, c'est une colonne en granit qui était à l'origine une colonne d'ordre toscan. Et c'est un peu le motif scénographique qu'on a voulu à l'ensemble de l'exposition. On va donc retrouver cette colonne tout au long du parcours.
Autre chose qu'on va retrouver tout au long du parcours, c'est la couleur rouge.
Cette couleur rouge qui était très très prisée des décors des grandes demeures romaines.
On est devant une carte qui est très importante. Ça permet de comprendre beaucoup de choses sur la présence de Rome en Bretagne. On va la décrire déjà cette carte. Quelle première chose voit-on ?
La particularité de cette carte, c'était que c'est une carte assez vaste, qui fait 3 mètres sur 2, et qui est une carte en relief qui reprend la topographie et le relief de la péninsule bretonne actuelle. Et c'est une carte en fait qui sert aussi d'écran, c'est-à-dire que vous avez un vidéoprojecteur au-dessus de nous et qui projette plusieurs cartes successives sur cet écran, cartes successives qui présentent l'occupation de la péninsule bretonne à l'époque romaine sous le plan de son découpage administratif, sous le plan de ses villes, sous le plan de ses voies ou sur le plan de ses bâtiments de type villa littorale.
Ce qu'on voit maintenant, c'est la population, donc les osismes, les venettes, les curiosolites, plus loin vers Rennes, les riodones et puis autrement du côté de Nantes, les namnettes. Ce sont donc les peuples qui étaient présents avant l'arrivée des Romains.
Voilà, c'est les peuples gaulois qui étaient présents avant l'arrivée des Romains, qui nous sont cités aussi dans les commentaires de la guerre des Gaules de César, et qui sont organisés par le pouvoir romain à partir de la fin du 1er siècle en une nouvelle structure administrative qu'on appelle les civitas, les cités, qui correspondent à des entités territoriales dirigées depuis une capitale de cité.
Les cités, les civitas, les cités, c'est un peu l'équivalent actuel de nos départements.
Grosso modo, ils n'en reprennent pas tout à fait les contours, mais voilà, ce sont des entités géographiques qu'on peut assimiler à des départements.
La capitale, à l'époque, c'était Vorjum, c'est-à-dire le carré actuel.
Alors, c'était la capitale de la cité des Osismes, qui prenait toute la partie occidentale de la péninsule bretonne. Et effectivement, les Romains créent la ville de Vorjum dans le dernier quart du 1er siècle avant Jésus-Christ. En font le chef-lieu de cette cité puissante, le chef-lieu, la résidence administrative de la cité.
Les Romains créent donc cette ville, organisent tout, voire qu'ils ont organisé également les voies de communication. Mais comment réussissent-ils à s'imposer, c'est une victoire militaire, c'est au contraire une intégration progressive et pacifique.
Alors il y a d'abord une victoire militaire, effectivement, à partir de -57 avant Jésus-Christ, c'est l'épisode de la fameuse guerre des Vénètes sur notre territoire, qui va se compléter ensuite par tous les épisodes de la guerre des Gaules. Grosso modo, dans les années -52, -51, après la victoire d'Alésia et après quelques soubresauts, la pacification a eu lieu. Et puis deux générations plus tard, le pouvoir romain, grosso modo dans le dernier tiers du 1er siècle avant Jésus-Christ, va organiser le territoire des Gaules, va associer les élites sociales gauloises, va essayer de les intégrer au fonctionnement de l'Empire romain, chose qu'elles vont faire de façon assez volontaire et de manière pacifiée très très rapidement.
Oui, en deux générations, c'est très rapide.
C'est très rapide et effectivement, là, le territoire des Gaules va être un territoire qui, contrairement un peu à l'idée qui en est restée parfois, va s'intégrer très facilement à l'Empire romain.
La capitale centrale, donc Vorjum, c'est carré, et là on voit un réseau en étoile sur la carte actuellement, on voit que toutes les voies de communication se dirigent toutes vers le littoral.
Oui, c'est une des particularités de cette cité des Osismes, qui est donc toute la partie occidentale de la Bretagne. On a en son centre cette capitale de carré et de là un réseau en étoile qui se dirige vers des points du littoral qui constituent à chaque fois des ports ou des éléments importants sur le plan maritime et qui sont distants, grosso modo, d'une journée de voyage.
L'importance de ces points sur le littoral, c'est quoi ? C'est la pêche ? C'est le commerce maritime ?
Alors, c'est justement un des sujets de l'exposition et un des sujets de questionnement qu'on a dans l'archéologie régionale. Il semble bien qu'on ait une importance particulière de ce littoral pendant la période romaine. On remarque que plusieurs agglomérations secondaires, quasiment toutes les agglomérations secondaires, sont situées à des points maritimes importants, en limite, en zone de rupture de charge, qui permet de faire la transition entre le commerce par voie terrestre et le commerce maritime d'une façon générale. Il est vrai que le littoral en Bretagne, c'est quelque chose de particulier, dans ce sens où ça ne semble pas seulement qu'un trait de côte, mais aussi tout un ensemble de fleuves côtiers dans lesquels la mer remonte plus plusieurs kilomètres, la marée pardon, remonte sur plusieurs kilomètres. On est le pays des Abers et des Rias, et cette configuration géographique particulière n'a pas échappé visiblement aux occupants de l'époque, qui établissent leurs principaux points d'occupation dans des secteurs favorables de ce point de vue.
Apparaissent également alors des villes qui parfois sont restées des villes importantes, hein, Quimper ou Quimperlé, etc., et d'autres qui sont en fait maintenant de toutes petites agglomérations. Et puis apparaissent des villas. Pourquoi faire apparaître les villas sur le littoral ?
Alors l'occupation en termes de villas sur le littoral dans la péninsule bretonne est une donnée assez particulière et caractéristique, on doit dire, de la période romaine de ce point de vue. On a repéré depuis le 19e un certain nombre de constructions monumentales, importantes, résidentielles, sur des points maritimes remarquables, qui étaient occupés par une élite riche et puissante, qui participait pleinement à tous les codes culturels de l'Antiquité et les codes culturels romains en particulier. Visiblement, le littoral de la péninsule bretonne, pendant la période romaine, est un littoral qui est manifestement pourvoyeur de richesses, permet à cette élite de s'affirmer et d'affirmer sa puissance par la construction somptuaire.
La balade du week-end, Michel Pagès.
Les aiguilles de la montre ne tournent que dans un sens. Quand on la remonte, c'est encore pour qu'elle avance. C'est le début de la suite. Pourquoi lire à l'envers un calendrier, le journal d'hier aux nouvelles périmées. C'est le début de la suite. En avant la fuite. En avant, t'inquiète pas petite. Pourquoi courir derrière des trains partis depuis des années? On n'arrivera jamais à l'heure au rendez-vous qu'on a raté. C'est le début de la suite. En avant la fuite. En avant, t'inquiète pas petite. C'est le passé, on n'y peut rien changer. Ce sont les salopards qui réécrivent l'histoire. Un genou à terre, regrets, chagrins anciens, sac à dos de pierre. Ça, c'est le début de la fin. En avant.
La balade du week-end.
Deuxième partie de notre visite de cette exposition consacrée à la présence de Rome ici en Bretagne, et notamment d'ailleurs à Douarnenez, on aura l'occasion d'en reparler. Kélikan Koto, là on évoquait les villas somptueuses, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont construits des villas, et ici on va dire à l'intérieur d'une de ces villas.
Alors oui, l'idée scénographique ici dans cette salle était de montrer la restitution des enduits peints et des plafonds peints d'une fouille récente, celle de la villa de Manévéchène, qui était sur le Ria d'Etel en Morbihan, et qui correspond, qui est le type même d'une villa somptueuse appartenant à l'élite romaine, une villa du 3e siècle après Jésus-Christ, particulièrement impressionnante.
Par sa décoration, alors la couleur rouge, hein, une fois de plus, mais alors on est un peu surpris par le gigantisme d'une villa et le luxe inouï qui y règne.
Effectivement, dans cette villa, le fouilleur Alain Provost a découvert en fait tout un ensemble de décors, des plafonds peints qui étaient écrasés sur le sol et qui ont permis aux spécialistes des enduits peints de proposer des restitutions, des décors aussi muraux. Parmi ces décors muraux, on a des décors peints, mais on a aussi des décors de stuc, à la fois des décors de motifs, d'architecture, mais aussi des figures, des scènes mythologiques qu'on a pu identifier tellement elles étaient explicites. Et certains de ces décors de stuc étaient d'ailleurs dorés à la feuille, donc tout un ensemble, un décorum d'un luxe assez inouï en fait.
Ouais, d'un luxe inouï, mais pas franchement discret. Hein.
Non, c'est aussi une démonstration.
Tiens, à montrer sa richesse quand même.
Voilà, c'est aussi une démonstration, c'est certain, de la part du propriétaire des lieux, de démontrer sa puissance, sa richesse à travers un décor qui au final est effectivement très chargé sur les murs et sur les plafonds.
Dans cette séquence de l'exposition, on apprend le nom du premier douarnoniste connu.
Voilà, cette élite en fait, on la retrouve un petit peu partout sur la côte en fait, en réalité, quand on regarde tous les sites qui ont été trouvés depuis le 19e qui correspondent à des villas bâties sur le bord du littoral, et on trouve d'autres traces en fait de cette élite. Alors à Douarnenez, effectivement, on a un monument qui a été érigé vraisemblablement au 2e siècle après Jésus-Christ et qui porte une dédicace. Cette dédicace, elle est faite au dieu Auguste et à une divinité qui s'appelle Neptune Hippius, mais cette dédicace est faite de la part d'un certain Caius Varinus Varus, qui correspond à un résident sur Douarnenez, qui a la citoyenneté romaine et qui vraisemblablement a sa maison principale à Carhaix, à Vorgium, et avait vraisemblablement une résidence en bord de mer dans la baie de Douarnenez.
C'était déjà les résidences secondaires en fait.
C'était déjà les résidences secondaires couplées peut-être aussi à une industrie, puisqu'à proximité de cette découverte, on n'est pas très loin en fait du site des Plomars, qui est un des plus grands sites de production et de transformation du poisson à l'époque romaine, vers ce produit qu'on appelle communément garum.
Donc on appelle communément garum, mais quand on veut fouiller un petit peu ici, il y a un panneau explicatif, il n'y a pas un garum, il y en a plusieurs. Enfin,
voilà, il y en a plusieurs, on est sur un marché aussi qui devait être un peu concurrentiel, il devait y avoir plusieurs recettes, et voilà, une certaine inventivité dans la production.
Et puis on a un film en 3D qui nous montre à quoi ressemblait justement l'usine de garum.
Alors oui, on a fait réaliser en fait sur la base des restitutions que le fouilleur Jean-Pierre Bardel avait travaillé avec l'archéologue italien et architecte Mutarelli. On a fait réaliser un film 3D qui permet de voir pénétrer à l'intérieur de cette usine de production des Plomars. Film 3D, en fait, on en a aussi un deuxième dans l'exposition qui, lui, est plutôt une restitution de la villa de Manévéchen et qui a été l'œuvre du travail de coopération entre le fouilleur Alain Provost et Yann Bernard qui a fait l'infographie.
Comme ça, grâce à ces deux films, on peut voir à quoi ressemblait effectivement l'usine de production de Garonne, donc la source de richesse, et puis le résultat pour le propriétaire, en fait, c'est la villa luxueuse.
Voilà, en quelque sorte, oui.
Il y en avait tout au long du littoral breton, ces villas.
On a des traces ponctuelles, assez régulièrement espacées, qu'on retrouve de cette architecture somptuaire, qui peut se traduire à la fois par des villas, mais également par des thermes privés associés. Et effectivement, tout au long de la côte, aujourd'hui, quand on les cartographie, on s'aperçoit qu'on repère assez fréquemment ce type de site.
Quelle est la période de l'histoire où justement il y a cette espèce de summum économique en fait, là où ce qui a permis la richesse, qui a permis la construction de ces villes-là, on est à quel moment précis de l'histoire?
Alors c'est le moment de la Pax Romana, hein, de la période de la paix romaine, entre la deuxième moitié du 1er siècle, grosso modo, et le 2e siècle après Jésus-Christ, avec quelques particularités malgré tout. C'est par exemple, si on prend la villa de Manévéchen, elle est du 3e siècle, donc une période qui va être soumise à une période de crise importante à l'échelle de l'Empire romain. Une crise qui semble toucher notre région que tout à la fin de cette période de crise, vers les années 270-280, qui sont la période d'enfouissement des trésors monétaires dans notre région d'une façon globale. Et c'est la période à laquelle la villa de Manévéchen est détruite également.
La balade du week-end, Michel Pagès. Balade du week-end.
Troisième et dernière partie de notre visite de cette exposition ici au Port-Musée de Douarnenez. Quelqu'un en a traversé assez rapidement. Tu évoquais tout à l'heure une crise. Il y a eu effectivement une crise. Hein, on est dans la fin des années 200. On change à ce moment-là beaucoup, en fait, la physionomie du territoire.
Oui, alors c'est quelque chose qui se passe à l'échelle de l'Empire romain d'une façon générale. Après la crise qui va se situer entre 235 et 280, avec une crise importante à l'échelle de l'Empire romain, c'est une crise financière, une crise militaire, une période de guerre civile et de pression aux frontières. Une série d'empereurs venus d'Illyrie va reprendre un peu le territoire, va reprendre l'Empire et va entraîner une série de réformes importantes. Parmi ces réformes, grosso modo, les conséquences de ces réformes, ça va être une militarisation de l'Empire de façon importante, une rétraction des villes au sein de leur cœur, avec la constitution de ce qu'on appelle des castrums, donc des fortifications, et sur le littoral aussi, toute une série de mesures qui va aboutir en fait à la fortification du littoral et à une reprise en main militaire.
Quelques exemples, Kélikien, de lieux qui ont commencé à être fortifiés par les Romains avant de l'être par la suite dans l'histoire.
Alors oui, on a en outre-Manche la cité de Portchester, dont le château de Portchester en fait est à la base en fait une fortification romaine importante. Et puis chez nous, plus près de chez nous, Brest, le château de Brest, château médiéval de Brest en fait est bâti sur des soubassements d'un castrum romain, d'une fortification romaine, vraisemblablement établie dans le cadre de ce qu'on appelle le Litus Saxonicum et sous l'impulsion peut-être du général Carausius dans les années 280.
Comment va se faire le passage entre la fin de l'influence romaine et puis la suite? Parce qu'en fait, c'est une histoire qui s'achève, puis une autre qui commence, là.
Alors, après la crise du 3e siècle, on a une période du 4e siècle qui se restabilise à l'échelle de l'Empire romain, mais qui ne va pas durer plus longtemps qu'un siècle. À la fin du 4e siècle, l'Empire romain entre dans une nouvelle période de crise, avec notamment suite à la bataille d'Andrinople, des difficultés militaires importantes, et toute une série d'usurpations qui vont reprendre pied. Les historiens un petit peu plus tardifs, comme Zosime, historien du 6e siècle après Jésus-Christ, nous raconte l'histoire de Maximus. Maximus est un général qui œuvre dans l'actuel Royaume-Uni, où des troupes romaines sont encore très présentes et décide de faire une usurpation, décide de conquérir l'Empire romain pour son propre compte, débarque dans les années 380 avec ses troupes dans le nord-ouest de la Gaule. Ces troupes, Zosime nous dit que ces troupes ne sont jamais reparties au Royaume-Uni et qu'elles sont à l'origine en fait de ces Bretons armoricains qui vont se désigner comme tel à la fin du 4e siècle, à la fin du 5e siècle, dans le contexte des agrégations de l'ensemble de l'Empire romain, et qui vont constituer une sorte d'entité politique et culturelle qui va donner naissance au Moyen-Âge, à la Bretagne.
Voilà, donc, je disais, la fin d'une histoire, le début d'une autre. Et puis, on termine quand même par un clin d'œil à Douarnenez. On fait une espèce de raccourci. Peut-être que la ville d'Is, autrefois, c'était Douarnenez.
Oui, c'est toute la question un petit peu du passé antique de Douarnenez. Douarnenez est un territoire qui possède plusieurs sites antiques connu et reconnu depuis le 19e. On a plus d'une dizaine de fenêtres comme ça qui s'ouvrent sur un passé antique d'une agglomération dont on ne connaît pas le nom, dont on connaît mal l'ampleur et la structuration, mais qui montre qu'elle a été puissante. Elle était puissante non seulement par ses usines de salaison qu'on retrouve fréquemment, mais elle était puissante aussi par certains monuments publics, et on en veut pour preuve l'existence d'un temple sur les hauteurs de Douarnenez, le temple de Trégouzel, qui est classé monument historique, qui a été découvert pour la première fois à la fin du 19e siècle et réouvert en fait entre 1978 et 1984 sur une petite fouille, mais qui a montré une architecture puissante, une monumentalisation très importante du bâtiment à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, et qui montre donc que la communauté qui vivait ici sur le territoire de Douarnenez avait dégagé suffisamment de surplus économique pour pouvoir avoir ce luxe entre guillemets de construction monumentale, luxe qu'on retrouve également dans le décor des différents sites qu'on a retrouvés sur Douarnenez.
L'exposition se clôt sur la reproduction d'un tableau, le fameux tableau d'Évariste Luminé, à la fuite du roi Granon. Le lien avec la ville 10, il est évident.
Voilà, on s'est permis un peu ce clin d'œil-là, qui nous fait le lien aussi en fait avec la période du Haut Moyen-Âge, entre l'Empire romain et le Haut Moyen-Âge. Et effectivement, on a fait un peu ce clin d'œil à cette légende de la ville 10 en bête Douarnenez, qui peut-être est un héritage aussi d'un souvenir lointain d'une agglomération puissante de l'époque antique.
Voilà, merci à Kelly Kiancoto qui nous a fait vivre cette visite de l'exposition L'Empreinte de Rome, actuellement visible jusqu'au 3 novembre 2019. Vous avez largement le temps d'y aller. Sachez que si vous y allez pendant les vacances, le port musée à Douarnenez est ouvert tous les jours, 10h, midi et demi, puis 14h, 18h. Et il y aura en début d'année 2019, pour la deuxième partie, session, si j'ose dire, de l'exposition L'Empreinte de Rome, il y aura des modifications, il y aura des nouveautés, il y aura encore plein de choses à voir, donc si vous la voyez cette année, vous pourrez la revoir une deuxième fois, il y aura plein de choses nouvelles, donc au Port-Musée de Douarnenez.